Amen.
Bonsoir à chacun. Je voudrais qu'on puisse ouvrir la parole de Dieu dans Ésaïe, chapitre 54, le verset 10. Pour ceux qui étaient là dimanche après-midi, c'est un des textes qu'on a pris. Et c'est un des textes même duquel on a fait un cantique. Ésaïe, chapitre 54, verset 10. Il est dit ceci: « Quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chancelleraient, mon amour ne s'éloignera point de toi, et mon alliance de paix ne chancellera point, dit l'Éternel, qui a compassion de toi. » Et j'aimerais qu'on puisse lire au verset 14 aussi, une des conséquences de cette vérité, de cet amour de l'Éternel: « Tu seras affermi par la justice, bannis l'inquiétude, car tu n'as rien à craindre, et la frayeur, car elle n'approchera pas de toi. » Amen. Vous êtes d'accord avec cette parole? Je crois que quand on réalise avec force que Dieu nous aime, et c'est ce que nous dit ces versets de manière tellement, tellement belle, quand les montagnes s'éloigneraient, quand les Pyrénées changeraient leur cours de leur place, l'amour de Dieu, lui, ne bougerait pas d'un centimètre. Et le résultat, c'est que Dieu nous ordonne, il nous ordonne quand même, bannis l'inquiétude, bannis la frayeur. Et je crois que si on réalise avec force justement cet amour de Dieu, cette alliance de paix que Dieu veut envers nous, que Dieu s'est engagé à faire envers nous, et je crois qu'alors à ce moment-là, on peut réaliser ces choses, on peut vivre cela. Ce soir, je voudrais qu'on voit de manière très simple les raisons que l'on a de ne pas craindre. Est-ce qu'il y a des raisons de craindre dans ce monde? Qui a dit non? Personne. Heureusement, parce que il suffit d'allumer les informations encore une fois, ou même pas de discuter avec n'importe quelle personne qu'on va croiser dans la rue et de lui demander: est-ce que vous avez peur de quelque chose? Et immanquablement, on va trouver une raison de craindre, une raison de s'inquiéter, une raison d'avoir un petit peu peur de l'avenir. Je regardais un sondage qui a été fait, justement, le titre du sondage c'est « Les Français ont peur ». Donc ça met tout de suite l'ambiance, dans le bain. Et dans ce sondage, il donnait toutes sortes de raisons qui faisaient que les Français avaient peur. Par exemple, il disait en janvier dernier, les Français avaient peur des attentats terroristes. Est-ce qu'on comprend? Est-ce que c'est quelque chose de normal? Dans le siècle dans lequel on est, c'est tout à fait normal. Et il citait toutes sortes de choses. Alors, je suis sûr qu'en les citant, c'est pas quelque chose qui va vous encourager. Par exemple, l'inquiétude du dérèglement climatique. Et des conséquences, on voit qu'il y a le météo qui est de plus en plus bizarre, il y a des tempêtes, il y a des tremblements de terre ici et là de plus en plus. Et c'est pas des choses qui nous font espérer en l'avenir. On voit qu'il y a la peur des problèmes financiers. On se demande quand c'est qu'il y aura la prochaine crise. En ce moment, apparemment, les gens disent que ça va mieux. Mais on n'est pas persuadé de cela. Et on se dit quand c'est que la prochaine crise va arriver. La peur d'un problème de santé. Apprendre un jour ou l'autre, peut-être qu'on est atteint d'une maladie grave. Et les Français ont peur de ça. La peur de perdre son emploi. Ou alors de ne jamais retrouver de travail si on est déjà au chômage. La peur d'avoir un accident de la route. Dès qu'on prend la voiture, il y a des personnes, ils sont stressés parce qu'ils se disent, mais c'est vrai, il y a de plus en plus d'accidents. La peur d'être agressé, d'être victime d'un vol. La peur que son enfant soit kidnappé. Vous voyez, toutes sortes de craintes qui sont là. Et quand on regarde les informations, quand on est face à ce flux d'informations qui circule, on se dit que quand même, c'est des craintes plausibles. Mais voilà, ce qu'il est dit dans la parole de Dieu, ce qui fait toute la différence, ce qui va à contre-courant de ce que le monde pense, c'est que Dieu nous dit « bannis l'inquiétude, bannis la frayeur ». Dieu nous demande de faire un choix entre soit la crainte, soit la foi. Et ce soir, je voudrais qu'on voit plusieurs personnes à qui Dieu a dit « ne crains pas ». Soit il l'a dit lui-même par une vision, soit il a envoyé un ange, soit il a envoyé un serviteur, soit peu importe le moyen que Dieu a employé, mais il a dit à une personne qui avait besoin de l'entendre « ne crains pas ». Et pas seulement « ne crains pas », mais « ne crains pas parce qu'il y a ceci ou il y a cela ». Est-ce que ça vous intéresse de savoir les raisons pour lesquelles on ne doit pas craindre? Moi, ça m'intéresse. Et la première se trouve dans Genèse, chapitre 21. Et on remarque qu'à chaque fois que Dieu a dit à cette personne « ne crains point », à chaque fois, c'était une situation qui était compliquée, voire qui était totalement désespérée. La personne, elle risquait la mort. Et on pourrait On pourrait, je crois, passer des centaines de prédications à étudier tous ces textes où le Seigneur Jésus a dit « ne crains point » ou « Dieu a dit ne crains point ». Je crois qu'il y en a plus de 150, mais ce soir, on ne va pas en voir 150, ne vous inquiétez pas. On va avoir quelques-uns. Première chose qui doit nous rassurer, qui doit nous faire ne pas craindre, c'est que Dieu entend nos prières, quel que soit l'endroit où on se trouve. Genèse chapitre 21, verset 14, « Abraham se leva de bon matin, il prit du pain et une outre d'eau qu'il donna à Agar et plaça sur son épaule. Il lui remit aussi l'enfant et la renvoya. Elle s'en alla et s'égara dans le désert de Beersheba. Quand l'eau de l'outre fut épuisée, elle laissa l'enfant sous un des arbrisseaux et alla s'asseoir vis-à-vis à une portée d'arc, car elle disait que je ne vois pas mourir mon enfant. Elle s'assit donc vis-à-vis de lui, éleva la voix et pleura. Dieu entendit la voix de l'enfant, et l'ange de Dieu appela du ciel Agar et lui dit « Qu'as-tu, Agar ? Ne crains point, car Dieu a entendu la voix de l'enfant dans le lieu où il est. Lève-toi, prends l'enfant, saisis-le de ta main, car je ferai de lui une grande nation. » Et Dieu lui ouvrit les yeux, et elle vit un puits d'eau. Elle alla remplir d'eau l'outre et donna à boire à l'enfant. Dieu fut avec l'enfant qui grandit, habitant dans le désert, etc., etc., et devint tireur d'arc. Ne crains point Agar, car Dieu a entendu la voix de l'enfant. Vous avez remarqué que plus haut, on a lu, Agar éleva la voix et se mit à pleurer. Et ce que Dieu dit, c'est que lui, il a entendu la voix, mais il n'a pas entendu la voix d'Agar, il a entendu la voix de l'enfant. Vous avez remarqué ça ? Des fois, on élève la voix, des fois, on pleure, mais ça ne sert à rien. Et là, elle a élevé la voix, on ne sait pas ce qu'elle a dit. Mais en tout cas, on sait que Dieu n'a pas entendu ce qu'elle a dit. Bien sûr que Dieu connaît tout, c'est ça que je veux dire. Mais Dieu n'a pas prêté attention à ce qu'elle a dit, il a prêté attention à la prière d'un enfant. Qu'est-ce qu'elle avait de plus cette prière ? Là, c'est pareil, on ne connaît pas le contexte, on ne connaît pas plutôt le contenu de la prière. Mais par rapport au contexte, on sait que cet enfant, il a sûrement dit « Seigneur, j'ai soif ». Et l'image d'Agar avec son enfant, avec Ismaël dans le désert perdu, c'est combien, c'est une image forte de ce monde qui est perdu, qui est dans un désert spirituel, qui voudrait abreuver son âme et qui se tourne vers telle ou telle chose et qui essaye de s'abreuver et qui n'y parvient pas parce que la seule solution, la seule source d'eau vive pour nos âmes, c'est le Seigneur Jésus. Et parce que le Seigneur Jésus nous aime, parce que Dieu nous aime, il nous permet ce soir encore d'entendre cette parole qui va pouvoir peut-être rafraîchir notre cœur, qui va pouvoir nous communiquer un rafraîchissement de nos eaux, c'est d'entendre cette parole « ne crains pas parce que j'entends ta voix quand tu pries. » Là où tu en es, il n'est pas question de savoir si on en est à un niveau spirituel, si on est plus saint que le frère qui est à côté de nous ou pas. Là où nous en sommes, le Seigneur nous entend. Que nous soyons un enfant, que nous soyons un adulte, que nous ayons 20 ans avec le Seigneur de marche, que nous soyons tout jeunes convertis, peu importe. Cet enfant, il était dans le désert. Il n'a pas fait une prière à rallonge. Il n'a sûrement pas récité de prière toute faite. Il a exprimé le besoin de son cœur. Il a été simple, direct. Seigneur, j'ai soif. Et je crois que quand on a réalisé qu'on a des besoins, on a tous des besoins, ce soir on peut se demander quel est mon besoin, de quelle manière le Seigneur peut intervenir dans ma vie, mais combien on a besoin de faire cette prière, surtout, Seigneur, tu connais mon besoin, viens répondre à mon besoin. Est-ce que vous ne croyez pas que Dieu, il est ce Dieu qui veut répondre à nos besoins ? La raison de ne pas craindre, c'est que quel que soit où nous en sommes, eux, ils étaient dans le désert et ils avaient un besoin, ils avaient besoin de l'eau. Et le Seigneur a répondu. Et il a béni même la maman à cause de l'enfant. C'est souvent l'inverse qui se produit, c'est les mamans qui prennent soin. Mais cette fois-ci, parce que cet enfant, il a élevé une prière toute simple, mais pleine de foi, pleine de conviction, pleine d'attente envers son Dieu. Sûrement qu'il avait vu son papa Abraham prier le Seigneur, qu'il avait vu cette communion, cette ferveur qu'avait Abraham envers son Dieu, et que ça l'avait marqué. Et quand il s'est retrouvé dans la panade, excusez-moi l'expression, il a fait une chose, il a dit « je vais faire comme Abraham, comme mon père, je vais faire connaître mon besoin ». Et le Seigneur a ouvert les yeux à sa maman, et vous connaissez la suite. Et combien nous avons besoin ce soir peut-être ? Est-ce que ce n'est pas ça la parole que Dieu veut que nous entendions simplement ? D'élever notre voix. Pas pour pleurer forcément,
Même si Dieu, il entend la voix de nos larmes, il y a des fois, quand on pleure, c'est des prières qu'on fait monter vers le Seigneur. Mais des fois, quand on pleure, ça sert strictement à rien. Ça fait perdre du temps. Et on a besoin de trouver cet équilibre. Surtout, on a besoin d'élever notre voix et de faire connaître notre besoin. La deuxième personne qui a rencontré l'amour de Dieu de cette façon-là, c'est dans 2 Samuel chapitre 9. Il s'agit de Méphibosheth. Vous connaissez aussi cette petite histoire. Méphibosheth, c'est le petit-fils de Saül. C'est le prétendant au trône, puisque tous les autres descendants, ils sont morts. Et au verset 5, il est dit, 2 Samuel 9, verset 5, « Le roi David l'envoya chercher dans la maison de Makir, fils d'Amiel, à Lodebar. Et Méphibosheth, fils de Jonathan, fils de Saül, vint auprès de David, tomba sur sa face et se prosterna. David dit « Méphibosheth !» Et il répondit en tremblant, c'est moi qui le rajoute, « Voici ton serviteur. » David lui dit « Ne crains point, car je veux te faire du bien à cause de Jonathan ton père. Je te rendrai toutes les terres de Saül, ton père, et tu mangeras toujours à ma table. » Il se prosterna et dit « Qu'est ton serviteur pour que tu regardes un chien mort tel que moi ?» Ne crains point, Méphibosheth, car je veux te faire du bien. Ce soir, est-ce que nous entendons au travers de ce passage la voix de Dieu qui nous dit « Ne crains rien, car je veux te faire du bien. » Est-ce que nous sommes persuadés ce soir que Dieu nous aime au point qu'il désire nous faire du bien? Et même cette humanité qui est au dehors et qui est perdue, qui n'a peut-être même pas conscience de sa présence, elle a besoin de comprendre cette humanité que Dieu est celui qui lui veut du bien. Est-ce que Méphibosheth avait besoin d'entendre cette parole à ce moment-là? Eh oui, parce que quand j'ai rajouté en tremblant, c'est qu'il avait des raisons de trembler. Vous savez qu'à l'époque, les rois, quand c'était de père en fils, comme on a connu en France, mais quand il y avait des fois des rois qui changeaient, en tout cas dans les nations païennes, c'est comme ça que ça se passait, on supprimait toute la descendance du roi d'avant. Et c'était le nouveau roi qui faisait ça, pour établir son règne. Et Méphibosheth, quand il a vu les serviteurs de David qui sont venus le chercher, croyez-moi qu'il se demandait ce qui allait se passer. Mais quand il a entendu cette parole, « Ne crains point, car je veux te faire du bien », il y a quelque chose qui s'est passé dans son cœur. Et alors que peut-être qu'il était dans les tremblements, dans la crainte, il y a quelque chose qui a commencé à germer. Et il y a quelque chose qui a dit mais oui, je crois que Dieu ne m'a pas oublié. » Peut-être que ce soir vous êtes là en vous disant « Mais est-ce que Dieu ne m'a pas oublié ?» Et croyez-moi, celui qui veut vous faire du bien, il est présent dans ce lieu par le Saint-Esprit. Et il veut que vous ne craigniez pas parce que il veut vous faire du bien. Qu'est-ce que nous devons faire? Vous savez que Méphibosheth, lui, il était perclus des pieds, c'est ce que nous avons lu. Et il y avait aussi cet aspect-là que normalement, les personnes qui étaient de cet acabit, ils n'étaient pas, c'était pas les personnes qu'on venait présenter au roi. Le roi, il y avait un prestige, il y avait une réputation, il y avait une majesté qui était là et on faisait le tri des personnes qui venaient devant le roi David. Mais là, c'est David lui-même qui allait chercher cet homme qui était perclus des pieds. Oui, déjà, il venait d'une famille compliquée, mais en plus, il avait ce problème physique. Et quelle image ça nous donne de nous qui sommes pas avec un problème physique forcément, mais avec ce problème du péché dans notre vie et qui avons le privilège d'être introduits dans la présence du roi et d'entendre cette parole du roi des rois qui nous dit « Je veux vous faire du bien, je veux guérir le mal ». Est-ce que vous savez que le Seigneur Jésus veut aussi que nous puissions manger à sa table? Bien sûr, un jour, nous mangerons tous à sa table. Vous savez que dans le ciel, il y a un bon festin qui est préparé. Est-ce que vous avez pris votre ticket? Combien vous l'avez acheté le ticket? 0. 0 €. C'est gratuit. Il suffit de croire. Dans le ciel, il y aura un repas, quelque chose d'incroyable. Je crois que sur Terre, même les meilleurs restaurants de cette planète ne se comparent pas une miette à ce qui se fera là-bas. Mais je parle d'un repas que nous pouvons être à la table du roi tous les jours de notre vie, nous pouvons venir dans la présence de Dieu, tous les jours de notre vie, nous pouvons être abreuvés de la source d'eau vive comme Agar a été abreuvé à ce moment-là, et Ismaël, tous les jours nous pouvons avoir cette nourriture spirituelle rentrant dans la présence de Dieu, en lisant la parole, en priant le Seigneur, et en recevant du ciel quelque chose, cette manne cachée que le Seigneur nous promet. Tous les jours nous pouvons le faire, parce que Dieu veut nous faire du bien. Psaume 23. Ah, vous le connaissez ce psaume. Vous le connaissez par cœur. Mais on ne va pas tout le lire. On va lire que ce verset qui nous intéresse ce soir. Ce verset où le roi David a reçu cette parole du Saint-Esprit et il l'a retraduit au travers de ce cantique. Au verset 4, il est dit, il a reçu en plus cette parole dans ce contexte très particulier. « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. » Alors qu'il marche dans la vallée de l'ombre de la mort, ou qu'il a marché peut-être, il se souvient d'une expérience, c'est à ce moment-là qu'il a ressenti dans son cœur cette vérité qu'il ne fallait pas craindre, qu'il fallait bannir l'inquiétude, qu'il fallait bannir la frayeur. Pourquoi ? Car tu es avec moi. La présence de Dieu, le fait que Dieu soit avec nous, c'est une raison que l'on ne craigne pas. Et si on a donné notre vie au Seigneur, si on a fait la paix avec lui, si on a accepté le sacrifice de Jésus, alors il n'y a pas d'autre raison qui fait qu'on ne doit pas craindre. C'est suffisant, ça suffit largement de savoir que Dieu est avec nous. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Et le résultat de ce qui se passe quand Dieu est avec nous et quand on le réalise, parce que bien souvent, Dieu est avec nous, mais on ne le réalise pas, ou alors bien souvent, Dieu, on croit qu'il est avec nous, mais c'est nous qui sommes loin de lui. Mais quand il est avec nous et qu'on le réalise de manière claire, le résultat, c'est que l'on est rassuré. On se rend compte, oui, qu'il y a la houlette et le bâton qui nous rassurent. Quand on n'est pas des brebis, mais si on était une brebis, on est des brebis spirituelles, mais si on était des vraies brebis et qu'on voyait le bâton et la houlette du berger, c'est quelque chose qui nous rassure. Mais quand on est des enfants de Dieu et qu'on regarde à sa sainteté, quand on regarde à sa fidélité, quand on regarde à sa bonté, comme on l'a lu, quand on regarde qu'il est celui qui est prêt à nous bénir, prêt à nous secourir, prêt à nous faire du bien, quand on regarde à tout le caractère de Dieu, il faudrait lire toute la parole en entier pour cerner la grandeur de la personnalité de Dieu, alors tout ça, ça nous rassure. Et ça nous amène, ça ne laisse plus de place à la crainte dans notre vie. Et des fois, la crainte, elle est là dans notre vie parce qu'elle trouve un terrain favorable. Est-ce que vous avez déjà essayé de planter un palmier au pôle Nord ? Qu'est-ce qui se passe ? Il y a un petit peu de difficulté. Alors, j'ai pris les extrêmes là. Mais des fois, on essaie de planter des palmiers même dans certains coins de France. Et parce que le climat est un peu trop rude ou la terre n'est pas bonne, ça ne prend pas, ça ne correspond pas. Mais si on essaie de planter le palmier de la crainte dans notre cœur et qu'on est continuellement dans le doute, continuellement dans la peur, continuellement dans les pensées négatives, continuellement dans cette ambiance-là, laissez-moi vous dire que la crainte, elle va bien grandir, ça va bien pousser, pas besoin de trop arroser. Mais si dans notre cœur, il y a cette confiance en Dieu, il y a cette réalité, cette clairvoyance spirituelle que Dieu est avec nous, quel que soit ce qui peut se passer, oui, même si je suis dans la vallée de l'ombre de la mort. Le Dieu est avec moi. Le Dieu qui peut me protéger est avec moi. Et bien si on est dans cette attitude-là, laissez-moi vous dire que la crainte, elle ne va pas pouvoir rester trop longtemps. Ça va vite sécher, ça va vite être dispersé aux quatre vents, parce que quand on a un cœur rempli de foi, la crainte ne peut pas rester. Regardez, toujours dans cette vérité-là de que Dieu est avec nous, le chapitre 41 d'Ésaïe. Ésaïe, chapitre 41, ça reste dans cette pensée, verset 10, un verset qui est bien connu d'ailleurs. « Ne crains rien, car je suis avec toi. » Vous voyez, c'est texto ce qu'on vient de dire. « Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Ne crains rien, car je suis avec toi. Dieu promet d'être avec nous, et Dieu a déjà exaucé une partie de sa promesse en envoyant Emmanuel. Emmanuel, ça signifie Dieu avec nous. Emmanuel, c'est le nom symbolique de Jésus-Christ qui a été envoyé sur la terre pour nous. Et est-ce que Jésus-Christ, c'est pas aussi celui qui peut nous apporter le salut ? Jésus, c'est le nom par lequel nous pouvons être sauvés. Et c'est exactement ce qu'il est dit. Dieu nous a envoyé Jésus-Christ, notre Sauveur. Voilà pourquoi nous ne pouvons ne pas être inquiets ce soir. Parce que nous connaissons Jésus-Christ. Parce que nous avons entendu parler de Jésus, mais plus que ça, nous avons cru dans le sacrifice du Seigneur. Regardez au chapitre 43, verset 1er, cette fois-ci, juste après. Ainsi parle maintenant l'Éternel qui t'a créé, ô Jacob. Et on peut mettre chacun notre nom. Celui qui t'a formé, ô Jonathan. Ne crains rien, car je te rachète. Je t'appelle par ton nom, tu es à moi.
Oui. Nous avons cette raison de ne pas craindre. Parce que Dieu est avec nous. Mais Dieu est avec nous parce que il nous a rachetés. Comment est-ce que Jésus-Christ nous a rachetés? Comment est-ce que nous appartenons maintenant au Seigneur et nous pouvons accéder à la présence de Dieu? Et un verset de l'Apocalypse qu'on connaît tous qui dit « Tu as racheté pour Dieu, par ton sang, des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. » C'est par le sang de Jésus et seulement par le sang de Jésus que nous avons été rachetés. Et c'est de cette manière-là, alors que nous avons demandé pardon pour notre péché, alors que nous avons imploré le Seigneur, nous sommes repentis, nous sommes convertis à lui, à ce moment-là, nous avons été rachetés, il y a une nouvelle vie qui a germé en nous, et parce que nous sommes rachetés, nous avons cette raison de ne pas craindre ce soir. Peut-être que tu as besoin d'entendre cette parole. Ne crains pas, car je te rachète. Je t'ai racheté, mais je vais continuer à prendre soin de toi durant toute ta vie. Peu importe les circonstances, oui, même si tu traverses la vallée de l'ombre de la mort. Qui a déjà traversé une vallée de l'ombre de la mort? Je crois que on a tous vécu ça, et si on ne l'avait pas vécu, croyez-moi que ça va pas tarder à, vous allez pas tarder à le vivre. Parce que c'est quelque chose qui arrive, les moments d'épreuve, les moments de difficulté. Mais dans ces moments-là, le Seigneur nous promet d'être avec nous. On peut aller au deuxième livre des Chroniques, au verset 20. Nous voyons encore une expérience. Mais là, ce n'est pas seulement une personne qui a reçu une parole. C'est tout un peuple entier qui reçoit l'ordre de ne pas craindre de la part de Dieu. Deux Chroniques, chapitre 20, verset 1er. Après cela, les fils de Moab et les fils d'Ammon, et avec eux des Mahomites, marchèrent contre Josaphat pour lui faire la guerre. On vint en informer Josaphat en disant: une multitude nombreuse s'avance contre toi depuis l'autre côté de la mer, depuis la Syrie, et ils sont à Hatsatson-Tamar, qui est en En-Gedi. Regardez ce qu'il est dit de Josaphat. Dans sa frayeur, Josaphat se disposa à chercher l'Éternel, et il publia un jeûne pour tout Juda. Juda s'assembla pour invoquer l'Éternel, et l'on vint de toutes les villes de Juda pour chercher l'Éternel. Dans sa frayeur, cet homme s'est mis à chercher l'Éternel. Ça veut dire qu'il y a des moments dans nos vies où on connaît la frayeur. C'est pas parce que Dieu nous dit « bannis la frayeur, bannis l'inquiétude, bannis la crainte » qu'on ne connaît jamais la crainte, qu'on ne connaît jamais l'inquiétude. Non, parce qu'on est sur la terre, parce qu'on est humain, parce qu'on est en contact de personnes qui sont des pécheurs encore, parce que nous-mêmes on a des faiblesses, on connaît des temps de crainte, on connaît des temps de tremblement. Mais voilà ce que cet homme, il a fait dans sa frayeur. Il a déterminé dans son cœur de chercher l'Éternel. Et plus que ça, il a même, comme il était roi, il a profité un peu de son influence, il a convoqué un jeûne pour tous ceux qu'il voulait pour chercher l'Éternel. Parce qu'il y avait une multitude de personnes qui venaient pour faire la guerre. Et souvent, quand on a des problèmes, on n'a pas un problème en même tout seul qui vient nous embêter, mais c'est des tonnes et des tonnes de problèmes, des multitudes de problèmes qui viennent, c'est comme une armée qui vient nous assaillir, mais voilà ce que nous avons besoin de faire. Chercher l'Éternel alors que nous sommes dans la frayeur, et regardez ce qui se passe au verset 13, Dieu permet que quelqu'un puisse recevoir une parole particulière. Tout Juda se tenait debout devant l'Éternel, avec leurs petits-enfants, leurs femmes et leurs fils. Alors l'Esprit de l'Éternel saisit, au milieu de l'assemblée, Jacaziel, fils de Zacharie, fils de Benaja, fils de Jéiel, fils de Matania, lévite, d'entre les fils d'Azaph. Et Jacaziel dit: soyez attentifs, tout Juda et habitants de Jérusalem, et toi, roi Josaphat. Ainsi vous parle l'Éternel. Ne craignez point et ne vous effrayez point devant cette multitude nombreuse. Pourquoi? Car ce ne sera pas vous qui combattrez, ce sera Dieu. S'il y a bien une raison pour laquelle on a le droit de ne pas craindre, c'est parce que Dieu nous promet que dans les difficultés, même s'il y a une armée entière qui vient se dresser contre nous, c'est lui qui combattra pour nous. Le peuple d'Israël, quand il se retrouve face à la mer Rouge, il a expérimenté la même chose. Moïse leur dit quasiment les mêmes paroles. Ne craignez pas, gardez le silence devant ce que Dieu va faire pour vous délivrer. Mais voilà. Est-ce que nous faisons la même chose que ce peuple d'Israël? Oh, c'est sûr, il y a eu des murmures auparavant, il y a eu de la crainte, il y a eu des tremblements, il y a eu même toutes sortes de pensées qui sont revenues, il faudrait mieux qu'on retourne en Égypte. Mais quand le peuple a choisi de ne pas craindre, il y a eu au moins Moïse qui lui a mis sa confiance en Dieu, quand il a dit
garder le silence, et que les personnes ont fait ça, le Seigneur a combattu. Je vous laisse le soin de lire la fin de cette histoire-là, mais vous verrez de quelle manière le Seigneur a délivré un peuple qui était entouré par des armées ennemies. Il n'y a personne qui a dû sortir une épée pour combattre. C'est Dieu qui a combattu pour eux. Et souvent, nous, on est là justement à essayer de combattre, essayer de sortir l'épée, essayer d'affronter les situations, essayer de nous efforcer, de trouver la solution, alors que la solution, elle se trouve seulement dans la présence de Dieu. Et dans cette vérité que si je suis pas dans la crainte, si je suis dans cette conception clairvoyante que Dieu est avec moi et que c'est lui qui combat, alors le problème est déjà quasi réglé. Dès que j'ai compris que j'ai pas besoin de m'inquiéter, que j'ai besoin de faire confiance à Dieu, le problème, il est déjà réglé. Parce que le Seigneur, il ne tarde pas dans l'accomplissement. C'est vrai qu'il y a des fois où on a l'impression que c'est un petit peu plus long que ce qu'on pense. Mais le Seigneur, il est fidèle. Le Seigneur, et il est patient. Le Seigneur, il use de patience, voulant que le maximum puisse connaître l'Évangile, connaître la lumière, connaître la bonne nouvelle de la foi en Jésus-Christ. Et je voudrais finir avec ce passage dans Luc chapitre 8, verset 50. Vous connaissez aussi ces textes. Il s'agit de Jaïrus. Mais quand le Seigneur Jésus lui-même, parce que cette fois-ci c'est Jésus qui le dit, quand le Seigneur Jésus prononce cette parole, Jaïrus, il est au pire, du fond du trou. Il est dans la situation compliquée, bien sûr. Jaïrus, il est merveilleux parce que c'est un chef de synagogue, mais la première personne qu'il allait voir quand il a eu un problème, c'est pas le sacrificateur, c'est pas le chef du district des synagogues, je sais pas si ça existe, mais vous comprenez. Non, il allait voir Jésus-Christ. Il s'est adressé à la bonne personne, il a frappé à la bonne porte. Il allait voir le Seigneur Jésus, celui qui était puissant pour guérir. Et alors qu'il allait le voir, sa fille, elle était encore vivante. Et alors qu'il allait le voir, malheureusement pour lui, mais heureusement pour la femme qui a interpellé le Seigneur, il y a quelqu'un qui l'a touché dans le dos et qui a été instantanément guéri. C'est la femme à la perte de sang. Le problème pour Jaïrus, c'est que ça a entraîné un petit peu de contretemps. Et alors qu'ils étaient remis en route pour aller voir la fille, au verset 49 du chapitre 8, « Comme il parlait encore, survint de chez le chef de la synagogue quelqu'un disant, « Ta fille est morte, n'importune pas le maître. » Mais Jésus, ayant entendu cela, dit au chef de la synagogue, « Ne crains pas, crois seulement, et elle sera sauvée. » Et lorsqu'il fut arrivé à la maison, il ne permit à personne d'entrer avec lui, si ce n'est à Pierre, à Jean et à Jacques, et au père et à la mère de l'enfant. Tous pleuraient, se lamentaient sur elle. Alors Jésus dit, « Ne pleurez pas, elle n'est pas morte, mais elle dort. » Ils se moquaient de lui, sachant qu'elle était morte. Mais il la saisit par la main et dit d'une voix forte, « Enfant, lève-toi !» Et son esprit revint en elle, et à l'instant, elle se leva, et Jésus ordonna qu'on lui donna à manger. Amen. Est-ce que ce n'était pas le meilleur moment pour entendre cette parole du Seigneur ? Ne crains pas. Il est là avec cette espérance que Jésus va pouvoir guérir sa fille. Et alors qu'il est en train de marcher, de se rendre vers sa maison, quelqu'un qui vient lui donner la nouvelle. Mais non, ça ne sert à rien, ta fille est morte, n'importune plus Jésus. Et combien quand j'entends cette parole, cette histoire, je ne peux pas m'empêcher de faire le parallèle de ces personnes qui nous encouragent souvent quand on est dans l'épreuve. Et alors qu'on est dans la difficulté et qu'on aimerait être encouragé en nous disant « Mais oui, le Seigneur peut faire quelque chose pour toi, fais-lui confiance, il est tout puissant, et tout le pouvoir lui a été donné dans le ciel et sur la terre. » Souvent, on n'entend pas forcément ce discours. On entend des gens qui disent « Mais non, ça ne sert à rien. T'as mis trop de temps à revenir. Non, c'est trop tard, maintenant le Seigneur ne peut plus rien pour toi. » Et c'est à ce moment-là précisément, alors que peut-être on a perdu tout espoir, que le Seigneur veut nous faire entendre cette parole. Jésus lui-même, par le Saint-Esprit, ce soir nous dit, ne crains pas, crois seulement. Parce que il y a une raison au fait de ne pas craindre, c'est parce que Dieu sauve, Dieu guérit, Dieu agit, Dieu intervient en réponse à notre foi. Si nous choisissons de placer notre foi en Dieu, si nous choisissons de ne pas craindre, si nous choisissons de mettre notre confiance et notre espérance dans le Seigneur, alors la main de Dieu se déploie et la situation qui est un petit peu désespérée, vous comprenez pour Jaïrus, c'était quand même délicat la situation. Eh bien, même cette situation-là qui était totalement finie pour tous les hommes,
Seigneur Jésus est encore capable d'intervenir. Voilà une des raisons, peut-être la raison principale pour laquelle nous pouvons choisir de ne pas craindre. Parce que ne pas craindre, c'est ce choix que l'on fait. Il y a des moments où on a la crainte qui vient. Quand le problème survient, quand la difficulté se présente devant nous, c'est normal. Mais on a le choix de rester dans la crainte. Ou on a la décision à prendre de dire « je refuse cette crainte, je refuse, je bannis l'inquiétude, je bannis la crainte, je bannis la frayeur, parce que j'ai compris que l'alliance de mon Dieu envers moi, c'est une alliance de paix, parce que mon Dieu est plein d'amour, et je pourrais reciter toutes les raisons que l'on a citées ce soir, mais on va se recueillir, et on va prier le Seigneur. Mais avant de le prier, qui va faire comme Ismaël? Qui va élever sa voix? Qui va choisir de faire comme Ismaël plutôt qu'Agar? Agar, elle a élevé sa voix, elle a pleuré, mais ça n'a rien donné. Ismaël, il a élevé sa voix. Ah, peut-être que ce n'était pas des mots choisis. Peut-être que c'était un vocabulaire tout tellement simple s'il n'était qu'un enfant. Mais Jésus nous a dit, si vous ne devenez comme des petits-enfants, vous ne pourrez voir le royaume de Dieu. Et certaines fois, on est préoccupé par les difficultés, on cherche des solutions humaines, on raisonne pour essayer de nous en sortir, alors que nous avons besoin que d'une chose, de bannir l'inquiétude et de réfléchir que Dieu est avec nous, que Dieu est celui qui sauve en réponse à la foi. Justement, est-ce que c'est pas quand tout va mal et qu'on a la crainte, qu'on a besoin de manifester notre foi en disant « Seigneur, je te fais confiance. Seigneur, c'est vrai qu'il y a le doute, c'est vrai qu'il y a la promesse qui tarde, c'est vrai qu'il y a telle ou telle chose dans ma vie, c'est vrai que je suis dans la vallée de l'ombre de la mort. Mais Éternel, tu es avec moi et je veux me laisser rassurer par ta houlette et ton bâton. Je veux me laisser rassurer parce que tu es le Dieu qui combat pour moi, parce que tu es celui qui marche devant moi, parce que Seigneur, tu es le Dieu qui me veut du bien. Ce soir, qui va faire comme Ismaël? Qui va élever sa voix et dire « Seigneur, tu connais mon besoin. J'ai soif, Seigneur, de ta présence. J'ai soif d'une action de toi dans ma vie. » Qui va dire comme Jaïrus « Seigneur, viens, interviens auprès de ma fille qui est malade. Peut-être que vous avez une personne que vous aimez qui est malade. » Et le Seigneur est capable, à cause de votre foi à vous, de bénir cette personne. Mais peut-être que c'est vous-même qui êtes malade ou qui êtes encore sous l'emprise du péché. Mais le Seigneur a promis qu'il serait avec nous dès l'instant où nous demanderions pardon pour notre péché. Ce soir, entendons cette voix qui est rappelée par le Saint-Esprit dans ces instants. Ne crains point, bannis l'inquiétude, bannis la frayeur et mets ta confiance en l'Éternel. Merci Éternel. Merci pour tous ces exemples et combien ils sont nombreux, tous les autres exemples où par le Saint-Esprit tu as communiqué cette parole de ne pas craindre. Seigneur, nous voulons être de ces personnes qui choisissent la foi plutôt que le doute, qui choisissent de s'appuyer sur toi, de se confier en toi plutôt que de rester dans la crainte. Tu connais nos situations, tu connais les difficultés de chacun. Tu vois, Seigneur, ce soir, les circonstances de chacun, peut-être celui qui est dans la vallée de l'ombre de la mort, ce soir en particulier. Merci parce que tu le rappelles, cette parole, que nous ne craignons aucun mal parce que tu es avec nous. Oh Seigneur, oui, nous ne voulons faire qu'une chose, nous voulons, Seigneur, nous efforcer de rester seulement dans ta présence, près de toi, s'il y avait quelque chose qui nous séparait de toi, Seigneur, que dans ces instants, par la repentance, cela puisse disparaître. Merci pour ta grâce qui efface notre péché comme une nuée. Merci pour ton pardon qui est merveilleux, Seigneur. Merci parce que tu ne te souviens pas de nos fautes et de nos iniquités. Et parce que, à cause de tout cela, maintenant nous pouvons bénéficier de ta présence et de cette tranquillité d'esprit devant toi. Fais du bien à mes frères et à mes sœurs ce soir, pour la gloire de ton nom, Jésus. Amen. Amen.